Bonjour. Nous continuons le voyage à travers les règles de discernement des esprits selon les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola. Nous en sommes déjà au 10e épisode de cette série de 16 épisodes, qui est l'adaptation française de la série d'entretiens en anglais « Le discernement des esprits, libération des captifs » du père Timothy Gallagher. Vous pouvez d'ailleurs retrouver ces entretiens en anglais sur la chaîne YouTube « Discerning Hearts ». 8e règle. Que celui qui est dans la désolation travaille à se conserver dans la patience, vertu directement opposée aux attaques qui lui surviennent. Qu'il soit convaincu qu'il sera bientôt consolé et qu'il emploie, comme nous l'avons dit dans la 6e règle, les moyens nécessaires pour vaincre la désolation. La désolation comme occasion de pratiquer la patience. C'est le sens de la règle numéro 8. La patience est la vertu clé dans les moments de désolation. On est d'accord que la plupart des gens manquent de patience de façon générale. Cependant, ici, Saint Ignace parle de patience dans un contexte bien particulier, celui de la désolation, quand notre relation avec Dieu devient difficile. Commençons comme d'habitude par un exemple. Il s'agit d'un extrait du journal spirituel d'Elisabeth Le Sœur, une Française décédée en 1914. Son histoire est assez remarquable. Elle était très attachée à son mari Félix. Elle-même était catholique, mais sa foi n'était pas au cœur de sa vie. Félix, lui, était un athée convaincu, un militant même. Dès le début de leur mariage, il la poussa à lire les philosophes de l'athéisme, Ernest Renan, Adolphe von Harnack, par exemple. Un peu contre sa volonté, elle commença à lire ses ouvrages, et plus elle avançait dans ses lectures, plus elle était curieuse de voir ce que les catholiques eux-mêmes répondaient aux thèses de ses écrits. Et elle se mit à lire les écrivains catholiques. Cela transforma complètement sa vie. Elle découvrit la beauté et la vérité de sa foi, et elle débuta une vie de grande sainteté qui mena finalement à son procès toujours en cours, en béatification et canonisation. Le fait qu'elle ne pouvait pas partager avec son mari son amour profond pour le Christ était une source d'une grande souffrance dans son mariage. Elle souhaitait ardemment la conversion de son mari, mais elle ne le poussa jamais, n'essaya jamais de le convaincre. Après sa mort, quand son mari mit de l'ordre dans ses affaires, il trouva son journal spirituel qu'il ignorait complètement. Il commença à le lire et fut profondément bouleversé de découvrir un côté de sa femme qu'il n'avait jamais soupçonné, même s'ils étaient très proches. En lisant les pages du journal, il réalisa l'intensité avec laquelle elle attendait sa conversion. Et cela le conduisit effectivement au Christ. Plus tard, il devint prêtre dominicain et passa le reste de sa vie à prêcher les enseignements spirituels de sa femme. C'est la raison pour laquelle nous avons accès à son journal aujourd'hui. L'extrait que nous allons lire a été écrit à un moment où elle vit, selon ses propres mots, des lâchetés, des faiblesses, des maladresses dans ma façon d'être avec d'autres, maladresses qui peuvent nuire aux idées qui me sont chères. Nous avons tous vécu cela à un moment ou à un autre dans notre propre vie. Et elle continue. Des souffrances physiques très vives et des souffrances morales très profondes. Et ensuite, elle écrit quelque chose de très beau. Au milieu de tout cela, une volonté obstinément tournée vers Dieu, une plénitude de confiance et d'amour pour lui. On sent qu'il y a en elle un noyau dur comme le roc, profondément enraciné en Dieu, si solide que rien ne pourrait jamais l'ébranler, même pas la désolation. Bien entendu, cette solidité n'élimine pas l'expérience de la désolation et toutes les émotions qui l'accompagnent. C'est la vertu de la personne qui ressent la pesanteur, le désarroi de l'expérience, mais n'abandonne pas pour autant. Le mot « patience » vient d'ailleurs du latin « patientia » qui veut dire souffrance, endurance, fermeté quand tout pousse à abandonner. Un peu comme la mère qui se lève nuit après nuit pour prendre soin de son enfant malade. Elle est épuisée et son épuisement ne fait qu'augmenter, mais elle continue à se lever et elle le fait jusqu'à ce que son enfant soit guéri. C'est de ce genre de patience que parle Saint Ignace au niveau spirituel, quand tout est sombre, pénible, et cela arrive de temps en temps, on le sait tous. Élisabeth écrit encore : « Les devoirs de chaque jour, accompli coûte que coûte, au prix de beaucoup d'efforts, sans élan, mais accompli. Elle continue à faire ce qu'elle a à faire, malgré la désolation, même si elle n'a pas d'énergie. Et 2 mois plus tard, dans le même journal, elle écrit « Plus de 2 mois bien pénibles, par la presque continuité de la souffrance physique. » Elle avait une maladie chronique qui lui causait beaucoup de douleurs physiques. Amenant l'accablement et par des angoisses au sujet de Juliette, sa sœur Juliette était malade également à ce moment-là, le sentiment douloureux que ma maladie durera autant que moi et entravera toujours ma vie. Mais encore une fois, elle parle de cette force intérieure. Elle écrit « Acceptation totale, sans aucune joie ou consolation intérieure. Résolution de faire servir mes épreuves au bien des âmes. Remplir ma vie de prière, de travail et de charité. Conserver la sérénité à travers tout. Aimer plus que jamais ceux qui sont les chers compagnons de ma vie. Et en premier lieu son mari, les membres de sa famille, les gens autour d'elle. » C'est un bel exemple de ce qu'exprime la règle numéro 8. Sainte Thérèse d'Avila le dit aussi très simplement dans son célèbre poème « Que rien ne te trouble, la confiance obtient tout. » Relisons la règle. Que celui qui est dans la désolation, la semaine où je ne sens plus la proximité et la douceur de Dieu, où je n'ai pas d'énergie pour prier, où je n'ai pas envie d'essayer d'exprimer plus d'amour dans ma relation avec mon mari ou ma femme ou mes enfants ou dans ma communauté pour vivre plus conformément à l'enseignement de Jésus. Que celui qui est dans la désolation travaille à se conserver dans la patience, comme on a vu Élisabeth le faire. Ça demande un effort, du travail. Comment y arriver? Voyons un exemple concret de quelqu'un qui prie habituellement 20 minutes chaque matin, à partir des lectures de la messe du jour. Cela fait plusieurs jours que c'est plus difficile, un peu vide. Ce matin, elle s'installe, tout est calme. Elle commence sa prière et elle n'y arrive pas. C'est pénible, aride. Elle est convaincue que ça va être encore pire que les autres jours et qu'elle ferait aussi bien de raccourcir son temps de prière, voire carrément de laisser tomber aujourd'hui. Et aussi laisser tomber la rencontre du groupe d'études de la parole. C'est à ce moment précis qu'il faut faire preuve de patience. Comme la mère qui se lève nuit après nuit et qui n'arrêtera sous aucun prétexte. Comme Élisabeth le sœur dans le passage cité plus haut. Au milieu de tout cela, une volonté obstinément tournée vers Dieu. C'est ce que choisit aussi de faire cette personne qui a du mal à prier ces temps-ci. Nous sommes mercredi soir, c'est le jour de la rencontre du groupe d'études de la parole. Elle y va depuis quelques mois, elle aime l'impact que ça a sur sa vie spirituelle. Et même si elle est en pleine désolation et que son niveau d'énergie est bas, elle s'arme de patience et elle y va comme d'habitude. Ou encore à cette retraite planifiée de longue date qu'elle attendait avec anticipation, malgré la désolation qui pousse à laisser tomber. La patience, synonyme ici de fermeté et d'endurance, est la vertu clé pour traverser les moments de désolation. Que celui qui est dans la désolation travaille à se conserver dans la patience, vertu directement opposée aux attaques qui lui surviennent. Qu'il soit convaincu qu'il sera bientôt consolé et qu'il emploie, comme nous l'avons dit dans la 6e règle, les moyens nécessaires pour vaincre la désolation. C'est le texte de la 8e règle. Qu'il soit convaincu qu'il sera bientôt consolé. Quel encouragement! C'est cette pensée pleine d'espérance qui donne la patience nécessaire pour finir le temps de prière, pour aller à l'étude biblique, pour participer à la retraite, pour continuer à faire des efforts pour mieux aimer son époux, son épouse, sa famille, ses compagnons. Qu'il soit convaincu qu'il sera bientôt consolé. La désolation pousse à croire exactement le contraire, que tout le temps de prière sera aussi aride et vide que les 5 premières minutes, que tout le week-end de retraite sera aussi frustrant et inutile que la première demi-journée, que les 20 ou 30 ou 40 années de mariage à venir dans le Christ seront aussi exigeants que ce que je vis en ce moment, ou du sacerdoce pour les prêtres. Qu'il soit convaincu qu'il sera bientôt consolé. Rappelle que cette désolation ne va pas durer éternellement, que la consolation va revenir, et l'adverbe est important, va revenir bientôt, bien plus tôt que ce que la désolation laisse croire. Imaginons une chambre d'hôpital avec 2 patients qui se sentent aussi mal l'un que l'autre, mais ont des symptômes différents. Le médecin entre, s'arrête auprès du premier patient, regarde les graphes, pose quelques questions au patient et dit J'aimerais pouvoir vous donner une meilleure nouvelle, mais malheureusement, je dois vous dire que cela va prendre plusieurs semaines avant que vous vous sentiez mieux. » Puis, il se déplace vers l'autre patient, regarde les graphes, pose quelques questions et dit « Je sais que vous ne vous sentez pas bien pour l'instant, mais je peux vous garantir que dès demain, vous vous sentirez en pleine forme. » Et il sort. Les deux se sentent aussi mal l'un que l'autre pour l'instant. Mais maintenant, c'est beaucoup plus difficile à supporter pour le premier et beaucoup plus léger pour le second. Le deuxième se sent encore mal. Mais maintenant, il sait que ça ne va pas durer. Et c'est la même chose pour la désolation. Ignace veut que nous fassions l'effort de prendre conscience que cela ne va pas durer, parce que cette pensée donne beaucoup d'énergie. Quand j'en suis aux 5 premières minutes de mon temps de prière, je ne sais pas quelle grâce le Seigneur me réserve. En relisant sa vie, on se rend compte combien c'est vrai. Combien de fois dans la noirceur de la désolation, on a eu l'impression que ça allait toujours être comme ça. Alors que la vie prouve que cela n'a pas toujours été sombre. Au contraire, le temps de la consolation revient et revient même bien plus vite que ne le laisse croire la désolation. Une femme assez âgée, septuagénaire peut-être, racontait au père Gallagher que quand elle a des creux spirituels, ce que saint Ignace appelle des moments de désolation, elle se dit en elle-même « Est-ce que c'était comme ça hier ?» C'est une belle question à se poser parce que cela permet de prendre conscience que non, cela ne fait pas si longtemps que ça va moins bien. Ou au moins que cela a commencé à un moment bien précis et qu'assurément, ça ne va pas durer éternellement, que la consolation va revenir et probablement bien plus vite qu'on ne le pense maintenant. Pendant le procès de canonisation de Mère Teresa de Calcutta, on a beaucoup parlé de la désolation dans laquelle elle s'est sentie pendant de longues années. Cela a de quoi en décourager plus d'un. Mais il faut être très très clair, et on en a déjà parlé dans un autre épisode, qu'il y a une différence entre ce que Mère Teresa a traversé et la désolation qu'on pourrait appeler « ordinaire », qui fait partie des hauts et des bas de la vie spirituelle quotidienne dont on parle dans les règles. Ce que Mère Teresa a vécu est ce que saint Jean de la Croix appelle la nuit obscure. Ce n'est pas tout le monde qui traverse cette épreuve. Seulement ce que Dieu appelle à vivre une certaine union, une certaine prière, car il s'agit bien d'une expérience envoyée par Dieu pour produire des fruits pour et par la personne qui la vit. Et il est clair dans le cas de Mère Teresa que sa nuit obscure a produit beaucoup de fruits pour les autres, à travers elle, parce qu'elle a supporté fidèlement cette nuit tout en rayonnant pour le monde. Quand une personne est appelée par Dieu à vivre l'expérience de la nuit obscure au sens strict du terme, tel que défini par saint Jean de la Croix, sa réponse devrait être similaire à celle de Mère Teresa, l'accepter, la supporter fidèlement et courageusement. Et comme pour toutes les croix portées avec Jésus, le vendredi saint mène au dimanche de Pâques, un renouveau dans la vie de la personne. La sainteté de Mère Teresa en est le signe et à travers la personne, dans la vie des autres. Mais la désolation spirituelle est quelque chose de complètement différent. Il ne s'agit pas d'une œuvre de Dieu, mais bien de l'ennemi, à laquelle il faut résister pour qu'elle ne nous blesse pas. Car son objectif est de nous faire du tort. Il veut que nous soyons découragés, démoralisés, freinés dans nos élans vers Dieu. C'est pourquoi, dans ce cas, la seule réponse adéquate, comme l'explique Ignace dans les règles que nous avons déjà vues, est d'y résister activement, en ayant foi en Dieu, et en utilisant tous les outils spirituels qu'il met à notre disposition pour résister, rejeter et dépasser la désolation. La très grande majorité d'entre nous, quand nous traversons des moments d'abattement au niveau spirituel, vivons l'expérience de la désolation et non de la nuit obscure. Et nous devrions donc la rejeter sans aucune hésitation, en sachant que c'est ce que Dieu attend de nous et que c'est de cette façon que nous en sortirons grandis spirituellement. On en revient encore une fois aux trois étapes fondamentales du discernement. Prendre conscience, comprendre et agir de façon adéquate, c'est-à-dire dans ce cas en combattant la désolation avec patience. Il se passe quelque chose dans ma vie spirituelle. C'est la prise de conscience. Je reconnais la désolation. L'ennemi essaye de me décourager, de m'éloigner de Dieu. C'est la compréhension de ce qui se passe. Je dois mettre toute mon énergie à y résister. C'est la troisième étape, agir. En m'efforçant d'être patient comme Élisabeth le Sœur, en me remémorant que cette difficulté que je suis en train de vivre ne va pas durer, que la consolation va revenir bien plus vite que je ne le pense maintenant sous l'effet de la désolation. Le père Gallagher aime écrire et l'écriture l'aide à comprendre ce qui se passe dans sa vie spirituelle. Et quand il est dans une période de désolation, quand il a du mal à prier, il sort son journal et y écrit ce qu'il ressent. En ce moment, je vis de la désolation. Et avec la règle 8 à l'esprit, il ajoute, ça ne va pas durer éternellement. C'est un acte de foi à ce moment-là, et la preuve de sa confiance dans les règles de saint Ignace. La désolation, évidemment, finit par passer, souvent bien plus vite qu'il ne l'avait prévu. Alors il reprend son journal et relit ce qu'il a écrit. Ce qui était un acte de foi est devenu une expérience réelle qui contribue à renforcer sa confiance dans les règles et sa foi. Mais pour cela, il faut décider d'avoir confiance dans le bien fondé des règles et de les appliquer. C'est une affaire de volonté et d'espoir. Il faut faire le choix de vivre, non pas juste au niveau du ressenti spirituel, parce que oui, ce que je ressens est lourd et pénible, mais en se remémorant les fondements de notre foi, et ce faisant, en renforçant sa volonté, ses capacités humaines pour maintenir le cap, même quand le ressenti est contraire. Je me remémore et je réfléchis à ce que je ne ressens plus. Ceci nous amène à une leçon importante pour la vie spirituelle de façon générale. On a tendance en tant qu'être humain à penser un peu naïvement que si on a pris une bonne habitude, on va la garder. Que ce soit une habitude alimentaire ou une routine d'exercice physique ou un engagement à la prière dans le domaine spirituel. Mais en réalité, l'expérience humaine n'est pas linéaire, c'est bien plutôt un enchaînement de hauts et de bas. Par moments, les choses sont sous contrôle et à d'autres moments, plus rien ne tient, jusqu'à ce qu'on remette de l'ordre dans sa vie. La seule manière de progresser est de ne jamais baisser les bras quand les choses ne vont pas comme on veut, et au contraire, de ramasser les morceaux et de continuer à avancer. À chaque fois qu'on réagit comme ça, qu'on se relève et qu'on recommence, on devient plus fort, comme le petit enfant qui apprend à marcher. C'est exactement ce qu'Ignace présume de la vie spirituelle quand il écrit les règles. La vie spirituelle est une alternance de périodes de consolation pendant lesquelles on se sent uni au Seigneur, on se sent réjoui auprès de lui, la prière est riche, Dieu semble proche, mais qui ne dure pas éternellement, et de périodes de désolation pendant lesquelles on n'a pas d'énergie spirituelle, Dieu semble loin, mais qui ne dure pas éternellement non plus, et sont suivies d'autres périodes de consolation. La vie spirituelle fluctue entre consolation et désolation d'intensité et de durée variable. C'est ce qu'Ignace a compris de sa propre expérience, et je pense que chacun peut constater le même schéma dans sa propre relation à Dieu. Bien sûr, les fluctuations ne sont pas symétriques ni régulières. Parfois, la période de consolation peut durer plusieurs semaines, voire même quelques mois, et être suivie d'une brève période de désolation. Parfois, c'est au cours d'une même journée qu'il peut y avoir des variations. Il faut ajouter aussi que parfois, il y a des périodes neutres, qui ne sont ni de désolation ni de consolation, ce que saint Ignace appelle les périodes tranquilles, pendant lesquelles les choses semblent en équilibre. On ne sent plus la joie profonde de la douceur de Dieu qu'apporte la consolation, mais on ne sent pas non plus la pesanteur de la désolation. C'est une période calme et tranquille pendant laquelle on continue à servir Dieu paisiblement. Donc, la représentation graphique, si on peut dire, de notre vie spirituelle n'est absolument pas symétrique et très différente d'une personne à l'autre. Mais saint Ignace veut nous faire comprendre que nous devons nous attendre à cette alternance de périodes de consolation et de périodes de désolation, tout à fait normale. C'est important de le savoir parce qu'on a tendance à penser qu'on est les seuls à vivre ces hauts et ces bas. On est 20 personnes dans l'église en train de prier et tous les autres ont l'air tellement fervents et recueillis. Si seulement ils savaient ce qui se passe en moi, toutes ces distractions qui me traversent l'esprit, les efforts que je fais pour essayer de rester concentré, mon désir que ça finisse, tous ces tiraillements habituels en période de désolation. Tout cela est normal, hein ? Il n'y a pas à en avoir honte, c'est la première leçon. Aucune honte, on l'a dit et redit parce que c'est très important. On peut même se dire que c'est une bonne chose ces temps de désolation, puisqu'ils permettent de grandir, de devenir plus fort. En fait, on gagne dans les deux cas. Quand Dieu nous comble de consolation, d'inspiration, de clarté, d'énergie pour les choses spirituelles, nous progressons dans notre conversion, notre prière s'approfondit, nous entreprenons de nouvelles initiatives pour nous rapprocher du Seigneur. Et quand il permet la désolation, si nous appliquons les trois étapes de discernement, si nous prenons conscience de ce qui se passe, si nous comprenons que nous sommes en désolation et, surtout, si nous agissons en prenant toutes les actions nécessaires pour la rejeter, nous grandissons aussi. Sans la désolation, nous ne sortirions pas de l'enfance spirituelle, si on peut dire. Elle nous fait grandir et mûrir dans la foi. La relecture de la vie le confirme. C'est souvent dans les moments les plus difficiles, les plus sombres spirituellement, que nous avons progressé le plus, parce que nous avons été poussés à prendre des mesures drastiques dans notre vie spirituelle, qui nous ont apporté des bienfaits inestimables. Et en rétrospective, même si ces moments ont été pénibles, nous savons que nous pouvons en être reconnaissants. Dieu, qui nous aime plus que nous nous aimons nous-mêmes, nous appelle à vivre ces périodes de désolation qu'il permet pour que nous en retirions ce genre de bénéfices. Un auteur a écrit « La désolation viendra, elle fait partie de la vie humaine au même titre que les jours pluvieux. » On n'aime pas toujours les jours de pluie. Ils dérangent souvent, mais d'un autre côté, que se passerait-il s'il n'y avait jamais de pluie? Ça aurait toutes sortes de conséquences néfastes. Les désolations sont aussi normales dans la vie spirituelle que les jours de pluie dans la vie de tous les jours. On en a besoin parce qu'elles appellent au dépassement et à la croissance. Dans son livre « Des révélations de l'amour divin », Julienne de Norwich, une mythique médiévale anglaise du XIVe siècle, décrit un moment de grande consolation spirituelle, une béatitude spirituelle suprême, une intime proximité avec Dieu, un fort sentiment d'être profondément enraciné dans le Seigneur. Mais cette expérience ne dura pas et fut vite remplacée par un temps de désolation qui la laissa avec un sentiment de vacuité, d'abandon, de solitude, privée de toute ferveur. Et cela ne dura pas non plus. La consolation revint avec sa joie, et cela ne dura pas. Elle écrit qu'elle vécut ainsi environ 20 alternances de consolation et désolation. C'est une magnifique illustration de ce que saint Ignace explique d'une vie spirituelle normale. Et ce qui compte, c'est le discernement, les trois étapes, prise de conscience, compréhension et sage action, c'est-à-dire acceptation de la consolation et rejet de la désolation. Et voilà comment Julienne réagit à ce qui lui arrive. Elle écrit avec une grande sérénité. Le but de cette vision fut de m'apprendre, je crois, qu'il est nécessaire pour certains de passer par de tels états, quelquefois d'être consolé, quelquefois de tomber et d'être abandonné à soi-même. Dieu veut que nous le sachions, il nous garde tout autant dans la fortune et dans l'infortune. Il nous aime tout autant dans l'infortune que dans la fortune. Quelquefois, un homme est abandonné à lui-même pour le profit de son âme, même s'il n'a pas péché. Or, en ce temps-là, je n'avais pas péché, et par là mérité d'être abandonné à moi-même. Je ne méritais pas davantage d'avoir ce sentiment de béatitude. C'est gratuitement que Dieu octroie la bonne fortune quand il lui plaît, et qu'il souffre que nous soyons parfois dans l'infortune. Dans un cas comme dans l'autre, il est amour, car il veut que nous nous accrochions de toutes nos forces au réconfort. La béatitude durera éternellement. Finalement, pour conclure sur la règle numéro 8, Ignace veut que, quand nous sommes en désolation, nous travaillions à être patients, à garder le cap, à ne pas abandonner, à aller jusqu'au bout. Et ce qui aide, dans ces moments-là, c'est de se remémorer, quand c'est le plus difficile, que cette désolation ne durera pas éternellement, que la consolation reviendra, et même bien plus vite qu'on ne le pense. Et finalement, il rappelle d'utiliser les 4 outils qu'il a proposés dans la règle numéro 6, pour se changer soi-même face à la désolation. Prier pour demander l'aide de Dieu, méditer les fondements de ma foi pour m'ancrer profondément dans l'amour fidèle de Dieu pour moi, examiner attentivement ce qui m'arrive pour comprendre comment ça a commencé et ce que je dois faire pour remédier à ce qui a déclenché la désolation, et finalement, courageusement faire acte de pénitence pour résister à la tentation de fuir dans des distractions et des gratifications immédiates qui non seulement n'aide pas, mais cause plus de tort. Que se passera-t-il si on suit les 3 recommandations de saint Ignace? S'armer de patience, se souvenir que la désolation finira bientôt, bien plus vite qu'on ne le sent, et utiliser activement les 4 outils proposés. Eh bien, la désolation sera moins profonde et elle durera moins longtemps. Par la grâce de Dieu, ces périodes de désolation passeront beaucoup plus vite, et la patience obtient tout, nous rappelle sainte Thérèse d'Avila.